Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui termine cette série sur le renseignement par une émission consacrée aux défis inédits que lui lancent la globalisation et la révolution numérique en compagnie de Sébastien Yves Laurent. Si le renseignement s'est construit au cours des derniers siècles comme une technique d'infiltration et d'analyse pour capter des informations, il est confronté aujourd'hui à une situation paradoxale. Notre monde numérique, en effet, se structure comme une production énorme de données susceptibles d'être analysées pour obtenir des informations dans plusieurs domaines, dans la santé, dans l'urbanisme, dans l'économie et bien sûr dans la sécurité. Alors, le renseignement doit réinventer sa place dans un monde où tout est transformé en information et où la technique offre à tous les moyens de donner sens à des informations faibles. Quelle peut être encore sa valeur ajoutée lorsque l'économie, la politique, le rapport aux autres, voire le rapport à soi, s'organise autour de ses propres méthodes? Ce sont les parmi d'autres, les nouveaux défis que je vous propose d'analyser ce soir en compagnie de Sébastien Yves Laurent, qui est professeur à la faculté de droit et de sciences politiques de Bordeaux, qui est l'auteur d'un grand nombre d'articles et d'ouvrages sur cette question, et j'en isole quelques-uns, pour une véritable politique publique du renseignement, c'était Institut Montaigne 2014, Atlas du renseignement géopolitique du pouvoir, dans le secret du pouvoir, aux éditions Nouveau Monde, et il prépare avec Peter Jackson un ouvrage qui sera publié simultanément en anglais chez Bloomsbury et en français sur la naissance de l'intelligence moderne, du renseignement moderne. Bonsoir Sébastien Laurent.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, la globalisation, comme on dit, la mondialisation, entendue dans son sens large, a profondément bouleversé le monde du renseignement, plus, dites-vous, que depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles.
En effet, et ce qui est très surprenant, c'est que les organisations de renseignement qui sont protégées par le secret, par la discrétion, n'échappent pas à cette transformation majeure depuis une dizaine d'années qu'on appelle la globalisation ou la mondialisation. Et il est très surprenant de constater que les entreprises, les sociétés, mais aussi les États et les parties les plus secrètes de l'État, qui ont à connaître de la force, de la sécurité, elles-mêmes sont touchées par cette globalisation.
Bah, elles sont touchées aussi par la promotion de la transparence. Mais elle n'est pas nouvelle, cette promotion de la transparence. Et en matière de renseignement, vous rappelez d'ailleurs que le président Wilson a été l'un des premiers à promouvoir un gouvernement totalement transparent, qui était bien sûr une illusion.
En effet, la naissance de l'idéologie de la transparence, c'est une idéologie. Si on croit que la transparence est un simple fait, on se trompe. La transparence est une idéologie et dans le domaine des relations internationales et des relations interétatiques, le président des États-Unis Wilson, lors de la Première Guerre mondiale, met en avant très fortement, dans des discours célèbres, cette véritable idéologie de la transparence dont il pense qu'elle peut, en 1917-18, rebâtir le système international. Et depuis,
pas uniquement au niveau interne, il pensait à la transparence dans les relations internationales.
Effectivement, et le covenant du traité de Versailles, qui est un texte qu'il a principalement rédigé, explique que la transparence est un facteur de paix. Et la Société des Nations qu'il porte sur les fonds baptismaux, même s'il échouera devant le Congrès, en tout cas c'est lui qui en a eu en grande partie l'idée, devait être bâti sur un principe de transparence parce que la transparence c'est la paix.
Oui, on voit d'ailleurs l'influence d'Emerson, du transcendantalisme américain derrière. C'est-à-dire, la transparence, c'est véritablement un rapport à soi, un rapport moral à soi.
C'est effectivement pour cela que c'est une idéologie. Ce n'est pas la simple publicité est née au XVIIe siècle en Grande-Bretagne, qui est un des piliers de l'idéologie libérale. La transparence moderne, elle apparaît effectivement au début du XXe siècle, elle a des racines plus anciennes, elle est promue dans les relations entre les États, et depuis les années 90 du XXe siècle, avec l'aide notamment des technologies, elle devient une valeur cardinale.
Oui, mais alors Sébastien Laurent, c'est un peu l'arroseur arrosé, parce que on a vu récemment, avec l'affaire Wikileaks, avec les Panama Papers, passe avec, dans un autre domaine, les États-Unis souffrir d'un excès de transparence où on a vu des télégrammes diplomatiques secrets qui ont été accessibles à tous et très intéressants d'ailleurs. Et je ne suis pas sûr que le président Wilson aurait été très très heureux de les voir sur la place publique.
Eh bien, Wilson était un vrai idéaliste qui connaissait en fait assez mal les affaires internationales. Et dès la conférence de la paix à Versailles, qui a pendant 5 mois rédigé le traité de paix, les chancelleries européennes, notamment britanniques et françaises, ont fortement contraint la délégation américaine à réviser ses idéaux de transparence. Ça ne marche pas. Il y a néanmoins, sur des sujets sociétaux, sur les sujets de droits humains, sur les sujets environnementaux, aujourd'hui, un apport important de la transparence. Parce que c'est un cadre de négociation, mais ça ne va pas au-delà.
Ben oui, mais là on parle du renseignement, donc on parle de quelque chose qui se fonde sur le secret. Et ces bouleversements, on va parler du numérique dans un instant. Ces bouleversements sont très importants parce que on a l'impression que vouloir maintenir le secret à l'heure de WikiLeaks, de Snowden et des Panama Papers, c'est quelque chose d'impossible. Et ça donne une prime à celui qui va se servir de la fuite comme mode de gouvernement, dites-vous.
Exactement. Mais ce caractère un petit peu contradictoire de notre temps, notamment le cas des États-Unis qui est le plus documenté, s'explique parce que ce ne sont pas les mêmes acteurs qui promeuvent bien évidemment la transparence. D'ailleurs, on a en France une vision peut-être un peu irénique de ce qu'a été le président Obama. Obama a eu les mots les plus précoces et les plus durs pour condamner à la fois l'action de WikiLeaks, mais aussi l'action d'Edward Snowden. Qui est un traître. Et il a de multiples fois condamné en des termes qui sont extrêmement fermes. Donc, cet homme qui avait fait campagne pour l'élection de son premier mandat sur la revendication de la transparence, y compris en matière de renseignement, s'est vite trouvé contraint face à la réalité des leçons du pouvoir.
Mais Sébastien Laurent, est-ce que c'est pas la plus généralement la fragilité, l'ambiguïté, la fragilité de l'instrument numérique, Internet, qui est censé protéger le secret, mais en fait qui est infiniment plus vulnérable que ne l'était la dépêche ou le renseignement, les hommes porteurs de messages.
Bah, vous avez raison, Antoine. C'est effectivement le problème crucial, c'est-à-dire que les technologies et notamment les technologies du numérique, ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication, ne sont pas, comme disent les ingénieurs, agnostiques. Ce ne sont pas des outils. Il y a une phrase célèbre de la Convention, c'est un levier passif que meut la volonté nationale. Eh bien, les technologies ne sont pas des leviers passifs mis entre les mains de la volonté nationale incarnée par les administrations. C'est au contraire un outil, un dispositif, les technologies de l'information et de la communication, qui transforment profondément les structures qui les utilisent et qui transforment les États. Il y a une grande vague néolibérale qui touche les États dans les années 80-90 avec les théories du New Public Management. Et il y a une deuxième vague qui les transforme tout autant, ce sont les technologies de l'information et de la communication.
Mais est-ce que précisément le renseignement n'est pas la frontière au néolibéralisme? Parce que le néolibéralisme veut finalement tailler toutes les relations humaines et toutes les institutions sur le mode du marché. Et ben là, ça ne marche pas sur le renseignement, pour le renseignement, Sébastien Laurent.
Je suis d'accord avec ce rapprochement, mais je distinguerai des pays. C'est-à-dire que les pays de l'anglosphère, dont on peut le plus parler parce que c'est en matière de renseignement...
Anglosphère, c'est-à-dire en gros...
J'aime pas l'expression anglo-saxon, donc je préfère dire l'anglosphère, mais c'est la Grande-Bretagne et les États-Unis.
Ça. Oui, et auquel on peut ajouter la Nouvelle-Zélande et l'Australie, parce que qui forment véritablement un bloc, on le voit dans d'autres domaines, je pense à la justice pénale internationale, qui forment spontanément une communauté culturelle et un bloc politique.
Effectivement, ils ont des liens qui sont plus grands que ne l'a été l'Empire britannique, qui sont plus solides qu'a été cette peut-être courte période qu'a été l'Empire britannique. Ils ont des communautés de vues, des communautés d'interprétation de tas de phénomènes. Et donc, leurs appareils de renseignement sont confrontés à ce que vous disiez très justement. C'est une frontière du néolibéralisme. Alors que des appareils de renseignement d'Europe continentale ou d'Europe tout court, peut-on dire maintenant, après le Brexit, eh bien, eux sont soumis de façon moindre à cette frontière du néolibéralisme.
Sébastien Laurent, alors ça nous amène à parler de l'Europe et un point qui est très important parce que là, le président Macron a lancé l'idée d'une communauté européenne du renseignement, un collège du renseignement en Europe. Est-ce qu'il ne va pas se heurter à cette difficulté culturelle qui fait que nous n'avons pas, entre français, allemand, italien, espagnol, en dépit de notre grande proximité culturelle sur beaucoup de domaines, on n'a pas ce réflexe qu'ont les anglo-saxons, je les appelle comme ça, mais même s'ils n'aiment pas d'ailleurs être appelés ainsi, Sébastien Laurent.
Alors là, vous pointez du doigt une réalité qui est tout à fait importante, c'est que cette position de dirigeante que la France a pris, la France sera le siège de cette structure nouvelle qui est une structure européenne, le Collège du renseignement en Europe, et au-delà de la structure qui est en train de naître, c'est un signe de ce que des pays qui ne constituent pas un État, qui ne constituent pas une fédération, l'Union européenne, qu'est-ce que c'est? C'est un peu compliqué à caractériser. En tout cas, il y a une réalité européenne et les pays membres de ce Collège du renseignement en Europe ont décidé de partager leur vue sur la façon de construire des pratiques de renseignement. Cela ne se crée pas non plus de ex nihilo. Il y a au sein d'une des structures de l'Union européenne ce qui s'appelle le SINSEN-INSEN qui pendant une dizaine d'années...
C'est vraiment les acronymes un peu...
Oui, je suis un peu désolé pour ces acronymes, mais le monde du secret a les siens propres. Ceci dit, ce centre de situation a servi peu ou prou pendant une bonne dizaine d'années de structure de renseignement à l'Union européenne. Elle ne peut pas être comparée néanmoins aux appareils de renseignement classiques.
Est-ce qu'elle produit beaucoup de renseignements?
Alors, on ne le sait pas parce que renseignement est protégé. Par contre, on peut avoir une thèse a été récemment soutenue sur le sujet par Julie Prin-Lombardo qui a fait toute une série d'entretiens, consulté la documentation qu'elle pouvait et qui a montré que ce SINSEN-INSEN européen avait néanmoins dans toutes les crises civiles et militaires auxquelles l'Europe a été confrontée, qu'elle avait joué un rôle important avant même la création du haut représentant pour la politique extérieure fin des années 2000.
Moi, ce que je vois, Sébastien Laurent, dans cet intitulé, c'est le mot collège aussi. Alors, anglicisme, college, ça veut dire en fait regroupement. Mais pour des Français, collège, ça veut dire aussi sciences humaines, ça veut dire un lieu où on réfléchit. Et c'est un autre d'ailleurs de vos dadas qui est peut-être aussi une source de faiblesse pour le renseignement français, cette absence, cette méfiance pour les sciences humaines traditionnelles, la sociologie, l'anthropologie, la géopolitique. On a l'impression que le renseignement veut tout faire lui-même en France.
Alors, c'est un point important parce que finalement, qu'est-ce que c'est que les services de renseignement? On l'oublie souvent, ils servent, ça c'est une administration d'État avec une forte hiérarchie, une protection du secret, mais ils doivent produire du renseignement. Oui. Et le renseignement, ce n'est pas une information certifiée. Le renseignement, ce n'est pas le fait d'avoir logé, comme dit la police, un suspect de terrorisme. Le renseignement, ce ne sont pas seulement les coordonnées GPS d'un groupe djihadiste dans la bande saharo-sahélienne. Ça, c'est de l'information.
C'est pas que de l'environnement, si pour
Exactement.
Prendre un autre terme policier.
Effectivement, on dit environnement dans les techniques de surveillance policière. Le renseignement, c'est autre chose. C'est le fait d'analyser des phénomènes que l'on a plus ou moins certifié. Et la différence n'est pas mince. Ça veut dire que pour comprendre les phénomènes que l'on regarde, il faut des outils intellectuels, que sont les disciplines des sciences sociales.
Michel Delépine, que je recevais hier, insistait beaucoup sur la tradition, sur la transmission d'un savoir, et d'un savoir long, profond, parce que c'est comme ça qu'on fait des bonnes analyses. Et elle se plaignait un peu du présentisme de nos politiques qui veulent toujours des solutions, une anticipation rapide, très courte. On ne peut pas anticiper un passage à l'acte prochain. On peut anticiper par contre sur le temps long et comprendre des tendances, Sébastien Laurent.
Mais je crois que ce qu'elle a dit hier est tout à fait juste. Il faut juste se rappeler que les services de renseignement travaillent sur plusieurs temporalités. Quand ils sont très polarisés, comme aujourd'hui c'est le cas dans tous les pays d'ailleurs, par la lutte antiterroriste, il faut détecter dans du temps court et pouvoir donner de façon quotidienne des alertes pour d'éventuels passages à l'acte. Je mets beaucoup de guillemets. Ça, c'est pour le besoin de sécurité, mais c'est aussi valable pour des questions d'ordre public. Il y a aussi tout un renseignement qui est un renseignement d'ordre public. Je pense par exemple à la question des gilets jaunes, par exemple. Là, il y a du renseignement intérieur, territorial, qui doit détecter à très court terme. Mais il y a aussi tout le reste.
Qui n'a pas été si mauvais, d'après vous?
Je n'en sais absolument rien. Bon, très je bien. Ne suis dommage, pas du tout dommage, capable dommage. D'en juger. Je suppose seulement que, comme d'autres pays, la digitalisation des activités des manifestants, la numérisation, la façon dont ils mettent en avant leurs futures activités, fait l'objet, en ouvert d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, fait l'objet de surveillance et de tentatives d'anticipation. Mais ça, c'est la temporalité courte. Oui. Les services de renseignement doivent aussi pouvoir dire si, en 2050, les nodules polymétalliques seront l'horizon des nouvelles sources d'énergie. Si, en 2040, le pouvoir post-poutinien se survivra. Si, dans une dizaine d'années, les structures post-printemps arabes, par exemple en Tunisie, seront aussi durables. Donc, le renseignement, il ne faut pas l'enfermer dans l'information et il ne faut pas l'enfermer dans le court terme, parce qu'il doit travailler sur plusieurs temporalités. Et finalement, le renseignement, c'est très simplement, il est à hauteur de société. Et pour comprendre la société, des coordonnées GPS ne sont pas utiles. Pour comprendre la société, il faut utiliser, dans les faubourgs de Paris ou dans les faubourgs de Bamako, à Singapour comme à Moscou, il faut utiliser l'anthropologie, la sociologie, la science politique. C'est absolument essentiel de le comprendre.
Mais, et aussi les rapports humains. Pour faire référence à ce qui s'est dit cette semaine, François, du service action de la DGSE, il nous expliquait l'importance de la connaissance, être capable de se fondre dans un marché afghan, de traîner dans des bars à Alep ou ailleurs. J'aimerais avoir votre avis sur ce point, il nous disait que c'était plutôt une force du renseignement français. Alors vous qui comparez les différentes cultures de renseignement, Sébastien Laurent, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors effectivement Antoine, il y a cette idée que l'on retrouve beaucoup en France et pas tellement dans d'autres pays, c'est qu'il y a, c'est un peu l'idée de la France, le pays du système D, le
oui, pays... Les bricoleurs de génie.
Voilà, les bricoleurs de génie. Et c'est une idée qui inspire d'ailleurs des tas de réflexions en dehors du renseignement. Bon, oui. Et on la trouve très présente, qui est que on n'a pas de pétrole, on n'a pas de grands moyens financiers, mais on a des idées. Et en l'occurrence, c'est pas des idées, c'est un vrai savoir-faire de ce qu'on appelle le renseignement humain. Je ne suis pas du tout capable d'en juger. Moi, je peux juste apprécier le discours qui est porté. Il est vrai que dans les pays anglo-saxons, pour vous faire plaisir, ce sont des compétences qui sont reconnues comme nécessaires pour les services de renseignement, mais elles sont beaucoup moins valorisées que le renseignement d'origine technique.
Ben oui, c'est pour ça d'ailleurs que vous employez un mot, je ne sais pas s'il est labellisé par la recherche, Sébastien Laurent, vous parlez concernant l'anglosphère d'info-dominance.
Alors c'est un terme auquel je mets des guillemets parce que c'est le terme des acteurs. Oui. C'est en gros cette idée que les États-Unis ont, depuis 1945 et encore plus depuis les années 90, c'est ce qu'on a appelé la révolution dans les affaires militaires, ils ont une domination informationnelle pour des raisons techniques et aussi pour des raisons de contenu parce qu'ils produisent les grands contenus structurants informationnels jusqu'à ce qu'il y ait émergence en Asie, notamment en Chine, d'une polarité différente.
Ça va très haut, très loin, très haut d'ailleurs, parce que c'est l'aérosatellitaire. Il y a une domination aérosatellitaire des États-Unis qui leur permet d'avoir des informations qu'aucun autre pays au monde n'a.
Oui, alors il faut, pour asseoir ce type de jugement, que je partage totalement, regarder la réalité de tout cela. Il y a aujourd'hui à peu près 1600 satellites civils et militaires. Beaucoup sont des satellites militaires et beaucoup sont des satellites duo. C'est-à-dire qu'ils travaillent aussi bien pour des besoins civils que pour des besoins militaires. Et sur cette flotte, les États-Unis ont un peu plus de 500 satellites. Donc ils ont une couverture par des satellites qui ont des fonctions tout à fait différentes, qui transmettent des flux mais qui captent aussi des réalités de terrain, au bénéfice notamment mais pas seulement des services de renseignement, ils ont une très forte domination. Aérosatellitaire, l'expression est tout à fait juste, parce que finalement aujourd'hui, les moyens techniques du renseignement gomme en quelque sorte les différences entre les espaces. Dans le droit international, on distingue en général le droit aérien du droit de l'espace extra-atmosphérique. Ça n'a pas vraiment de sens du point de vue du renseignement, puisque vous avez un drone que vous pouvez faire voler au-dessus d'une troupe de manifestants à 100-150 mètres, ou un hélicoptère. Il y en a beaucoup dans la ville de Bordeaux le samedi ces temps-ci. Mais il n'y a pas de rupture avec ce qu'un satellite situé sur une orbite même très très élevé peut rapporter. Donc aujourd'hui, de 1 mètre du sol jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres au-dessus de la Terre, il y a une continuité de capture d'informations et de transmission des flux.
Et c'est directement lié à la nature même du numérique qui est et de la mondialisation, qui correspondent à une disparition de l'espace. Confusion, disparition de l'espace, Sébastien Laurent.
Effectivement, des philosophes, je pense à Zygmunt Bauman, ont parlé d'une modernité comme étant une modernité liquide, liquid modernity, qui est un concept intéressant parce qu'il montre que l'effet majeur de cette globalisation, mondialisation, c'est la dilution des frontières territoriales, des espaces, des frontières juridiques, des distinctions, même des identités. Il faudrait bien sûr affiner ce constat, mais le renseignement, on le disait en début d'émission, n'échappe pas à cette transformation tout à fait radicale.
I am not satisfied, not at all, no, not when the prisoner has never had a chance to defend himself. Nonetheless, I know this is a penal colony, and I know that unusual measures are needed. Well, as strict discipline, I have some hope.
France Culture, Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui est toujours avec Sébastien Laurent, spécialiste du renseignement et qui a choisi de nous faire écouter cette air de Philip Glass, In the Penal Colony. I'm not satisfied. C'est tout un programme, ça, Sébastien Laurent.
Oui, j'ai choisi ce morceau, pas tant par goût personnel que parce que le titre, In the Penal Colony, rappelle ce que l'on identifie souvent avec le renseignement, c'est-à-dire l'idée de surveillance.
C'est Kafka, la colonie pénitentiaire.
C'est la colonie pénitentiaire, la Kafka, effectivement.
C'est ce que je vois, oui.
Et en amont, à la vision du panoptique benthamien, qui sert souvent de modèle, je crois pas tout à fait juste d'ailleurs, pour évoquer le renseignement, les surveillance studies, qui est tout un champ académique d'études des pratiques de renseignement, identifie le renseignement comme une forme nouvelle et exclusive de surveillance, de surveillance, et je crois que cette analyse est en grande partie faussée.
Et pourquoi elle est faussée? Parce que nous sommes entièrement devenus des sociétés de surveillance mutuelle, j'entends par la société numérique. Le grand paradoxe que vous soulevez, Sébastien Laurent, c'est de dire, mais le renseignement est confronté à quelque chose d'absolument inédit, c'est qu'il perd le monopole de sa méthode, en quelque sorte, puisque sa méthode s'est universalisée avec le numérique.
En effet, mais je dirais que la capacité que nous avons à regarder nos activités réciproques sur les réseaux sociaux, par exemple, est moins le fait de la naissance d'une surveillance centralisée d'État par le biais des services de renseignement au milieu du 19e siècle que tout simplement les pratiques anciennes d'auto-surveillance, de contrôle social réciproque dans les sociétés anciennes et archaïques,
oui.
Et d'interconnaissance. Et de ce point de vue-là, des tas de travaux historiques faits sur la réalité européenne comme sur des réalités non européennes ont très bien montré que le le premier agent de la surveillance des individus, avant d'être l'État qui n'existait pas, c'était les communautés d'individus qui se surveillaient eux-mêmes. Et je crois que nous sommes, si l'État ou si des compagnies privées peuvent éventuellement tirer parti de la numérisation de nos activités, de l'exposition de nos propres activités, cela n'est rien à côté de la surveillance que un groupe familial, un groupe amical, un groupe professionnel peut exercer sur ses membres qui mettent sur les réseaux sociaux l'état de leurs activités professionnelles ou privées.
Sébastien Laurent, on est frappé, je suis frappé par le fait que l'intelligence artificielle, ce mot vient de l'intelligence du renseignement. C'est-à-dire que il y a une parenté d'ailleurs dans l'étymologie historique, il y a une parenté aussi dans les méthodes. L'intelligence artificielle, c'est du renseignement par l'artificiel, c'est ça que ça veut dire.
Alors, le terme d'IA, d'intelligence artificielle, à l'heure où on vient de remettre un grand prix à trois grands leaders de l'intelligence artificielle, dont Jean-Yves Lequen, un Français très connu en la matière, à l'heure donc où on promeut beaucoup l'intelligence artificielle, je crois qu'il est très important, au-delà des mots, de regarder la réalité de tout ça. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, certaines sociétés qui vendent des solutions logicielles mettent en avant l'importance et le rôle déterminant de l'outil mathématique combiné à l'informatique qu'est l'intelligence artificielle. Bon, et on voit même apparaître des industriels qui produisent des solutions de renseignement, comme ils disent, qui sont appuyés sur l'intelligence artificielle, notamment au travers de la fonction de fouille de données. Évidemment, il y a des masses considérables de données numériques pour lesquelles l'intelligence humaine, même collective, n'est pas du tout, qu'elle n'est pas apte à traiter. Et la solution serait l'intelligence artificielle. Et là, on est parfaitement face, à mon sens, à une illusion technologique. Il est évident que face à des grandes masses de données, l'intelligence artificielle permet d'établir des corrélations, mais qui ne sont que des informations, qui ne sont pas du renseignement. Autrement dit, je ne crois pas du tout à la possibilité d'avoir un renseignement algorithmique fondé sur l'intelligence artificielle. Parce que je crois, et d'ailleurs l'histoire des services de renseignement le montre, la valeur ajoutée des services de renseignement, la raison pour laquelle ils ont été créés, c'était parce qu'ils avaient une capacité de comprendre les phénomènes sociaux sur un territoire donné ou sur un territoire étranger. Et ça, l'intelligence artificielle ne permet pas de le faire. Elle permet de caractériser des données sociales, mais elle ne permet pas de les comprendre.
Oui. Et vous rappelez ce dans un article que de très fort opportunément d'ailleurs Sébastien Laurent, que ce qui a changé, c'est que le numérique, c'est un système de systèmes, c'est-à-dire il y a une fusion. Vous avez raison de dire qu'il y avait une interconnaissance autrefois et que les gens se contrôlaient par la famille, par le village, par des circuits sociaux fermés et restreints, mais ils ne communiquaient pas ou peu entre eux. Aujourd'hui, ce qui est absolument vertigineux, c'est que si on combine le contrôle des réseaux sociaux qui sont investis par les services de toutes les nations, mais y compris et surtout peut-être par les anglo-américains, par l'anglosphère, l'aérosatellitaire, la NSA, on a quand même une possibilité de fusion, de recoupement, de croisement des informations absolument vertigineuse, Sébastien Laurent.
Alors ça, c'est absolument certain. La masse de données est considérable et on a avec l'intelligence artificielle des outils qui permettent de procéder à des tris dans ces masses de données et qui permettent de faire notamment une surveillance de tout l'environnement numérique, que ce soit par les données personnelles ou ce qu'on appelle les métadonnées, et également par le contenu des messages qui sont échangés sur des supports numériques. Il est certain qu'aujourd'hui, les services de renseignement intérieurs et extérieurs, vous en avez reçu cette semaine des représentants, ont des outils qui sont bien plus solides que par le passé. Néanmoins, ces outils ne donnent que des informations plus ou moins certifiées. Je reviens à cette idée qui me paraît centrale. Oui. Ça ne permettra jamais de comprendre pourquoi deux groupes sociaux se rapprochent, pourquoi un individu quitte un groupe social. Et c'est ça que les services de renseignement policiers, militaires ou stratégiques, c'est ça qu'ils ont besoin de comprendre. Et puis un deuxième effet, à mon sens négatif, et qui est une des illusions technologiques de notre temps, c'est que ce ne sont que des photographies de ce qui se passe. Or,
ce sont des points
sur une frise chronologique. Et ce dont a besoin le pouvoir politique, c'est une idée de ce qui pourrait arriver demain ou après-demain. c'est pas de savoir ce qui s'est passé hier. Il vaut mieux qu'il sache ce qui s'est passé hier et pourquoi ça s'est passé, ce que l'IA ne lui dira pas, mais il doit savoir, ce qu'on appelle ou l'anticipation ou la prospective, ce qui pourrait se passer demain. Le problème de la démarche ingénérique d'IA, c'est qu'on va prolonger les courbes. Et donc, on se met tout à fait dans un piège qui est un piège très conservateur. C'est-à-dire que on peut retracer l'historique de déplacement d'un individu, il y a des logiciels qui le font, mais les logiciels vont proposer une poursuite de cet historique de déplacement d'un individu. Oui. Le propre de cette perspective, c'est d'être une perspective très conservatrice, car elle ne prévoit pas des ruptures dans un comportement. Seule l'analyse fondée sur les sciences sociales permet de le faire.
C'est ça. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait dire la même chose pour la météo ou pour le droit. La météo n'est pas la reproduction de ce qui s'est passé pendant un siècle. On le voit tous les jours dans notre pays, de la même manière que le droit, c'est par définition une instance de conservation et de changement.
Et que pensez-vous, Antoine Garapon, de la justice actuarielle ?
Ah ben non, mais justement, je crois qu'elle tombe dans le piège il y a une criminologie actuarielle. Et la criminologie actuarielle, c'est une sorte de retour du destin. Qu'en fait, les gouvernements doivent faire de l'histoire. C'est le contraire.
Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Alors, il y a aussi, je crois, c'est ça qui est très intéressant et qui est en même temps, j'allais dire, trouble. C'est pas trouble, mais il y a un nouveau rapport entre les gouvernements et leur société. C'est que vous expliquez, Sébastien Laurent, comment les gouvernements ont ouvert leur technique de chiffrement et donc de cryptologie, à la société. Ils n'ont pas gardé le monopole de cette technique de mise en secret de mise au secret de certaines informations. Il l'a ouvert, ce qui est très vertueux. Et on pourrait agrandir cette remarque à l'informatique et à l'Internet en son entier, qui a été donné par l'armée américaine et l'administration américaine à la société civile et au monde entier.
Alors vous avez raison. Le point de la cryptologie est tout à fait intéressant, parce que aujourd'hui on assiste à un retournement de situation. On voit les organisations internationales, des associations qui, Human Rights Watch, celles qui protègent des dissidents par exemple dans des tas de pays, qui revendiquent la disposition de moyens de chiffrement pour se protéger contre les États. Et quand on regarde comment dans le temps cette question a évolué, c'est exactement ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'à l'origine, les moyens de chiffrement étaient protégés par des dispositifs juridiques, avec un cas ultime, le cas français, la cryptologie, jusque dans les années 1990, était considérée comme un matériel de guerre. Et la France s'est engagée assez tardivement par rapport à d'autres pays européens dans ce qu'on a appelé la libéralisation de la cryptologie avec la loi sur la confiance dans l'économie numérique en 2004. Mais pourquoi est-ce qu'elle l'a fait, la France et d'autres pays? Pourquoi est-ce qu'ils ont libéralisé ce moyen très fort qui était entre leurs mains?
Et très protecteur.
Qui était très fort pour l'information d'État et aussi très protecteur pour les individus qui pourraient l'utiliser. À l'époque, personne n'utilisait, sauf quelques informaticiens, des moyens de chiffrement. Et puis l'état de l'Internet, c'était un Internet peu... c'était pas vraiment un Internet social à l'époque. Bon, eh bien, tout simplement pour des raisons qui sont d'ordre économique et pas pour des raisons de libéralisation, comme on pourrait le croire.
On voit que l'économie, finalement, finit par se retourner, par manger le politique.
Alors, on le voit dans tous les domaines, mais y compris dans le domaine du renseignement. Et dans ce livre, The Rise of Modern Intelligence, que je suis en train d'écrire avec un collègue, eh bien, je m'aperçois que ce que la globalisation fait au renseignement doit comprendre aussi cette dimension économique. Les services de renseignement sont travaillés par l'idéologie de la transparence, et ils sont aussi travaillés, sûrement moins en France que dans les pays britanniques et aux États-Unis, mais ils sont aussi travaillés par le marché et par l'économie. Et en matière de cryptologie, dernier point, c'est un groupe de pression qui est aujourd'hui un outil de gouvernance mondiale par les normes très puissants, qui s'appelle l'OCDE, qui a été le principal lieu de lobbying au sens propre pour libéraliser la cryptologie.
Est-ce que ça, Sébastien Laurent, est-ce que ça pose pas un problème? Vous êtes historien et politiste. Ça pose un problème de souveraineté nationale. Le fait que les techniques de renseignement, les méthodes sont détenus par des entreprises privées. Une fois de plus, à l'image de ce qui se passe dans notre monde globalisé, ou du moins dans une partie de notre monde, on va venir dans un instant, c'est-à-dire que ce sont les GAFAM qui détiennent des plateformes des sociétés privées, qui détiennent ce pouvoir énorme, et non pas l'administration américaine. Donc, là encore, est-ce qu'on n'assiste pas à une privatisation des méthodes de renseignement ?
Alors vous avez raison Antoine Garapon, je ferai néanmoins une différence entre d'une part le renseignement humain, les techniques dont cette semaine François ou la commissaire divisionnaire ont pu vous parler, ça ce sont des techniques de qu'on apprend dans les écoles de police ou dans les structures militaires pour ce qu'on traiter des sources. Là, de ce point de vue, ce sont des ressources psychologiques, sociales que les individus
relationnelles très important
que les individus
François a beaucoup insisté voilà, là-dessus, bien voilà, sûr
que les individus utilisent. Et de ce point de vue, le marché ne joue aucun rôle. En revanche, en matière d'outils, qui sont
et
des
l'attachement,
outils
et l'attachement à la République et le fait de savoir qu'il travaille pour l'État, très important dans la relation que nous, un agent, avec sa source.
Ah, on a bien compris cette semaine en écoutant votre émission que la question des valeurs pour lesquelles absolument. Les agents ou les sources travaillent est absolument essentielle. Hein, il ne faut pas absolument. Avoir une vision instrumentale et un peu cynique du renseignement qui est popularisée par les produits culturels de masse. La réalité qu'on a bien perçue avec ces témoignages tout à fait intéressants, c'est qu'on est dans un monde de valeurs, d'idéaux dans certains cas, qui meuvent
de fonctionnaires au sens fort du terme.
Ce sont des fonctionnaires, ce sont des fonctionnaires de la République. Donc ça, en matière de renseignement humain, je dirais qu'il n'y a pas de ressources qui dépendent du marché. En revanche, l'essentiel des moyens, des technologies de l'information et de la communication, j'utilise ce terme un peu désuet, qui date d'une dizaine d'années, parce qu'il est, je crois, très clair. Les services de renseignement utilisent fortement ces technologies de l'information et de la communication, et elles sont aujourd'hui portées par des sociétés qui peuvent être nord-américaines, mais qui sont parfois d'autres origines nationales. Finalement, les technologies de l'information dépendent des innovations du marché. Et de ce point de vue, il y a un nucléaire souverain en France, mais on peut pas dire que les outils du renseignement soient des outils souverains.
Il n'y a plus de technologie de la souveraineté.
Il n'y a plus de technologie de la souveraineté. Et ceci pose des problèmes, pas seulement aux services de renseignement.
Bien sûr.
Ça pose des problèmes dans des tas de domaines.
Tout à fait, tout à fait. Alors, ça pose des problèmes dans des tas de domaines et ça pose aussi le problème de la mondialisation. Parce que, on parle d'une mondialisation qui est peut-être derrière nous, dont d'une partie, quoi, nous sommes peut-être en fin de cycle, Sébastien Laurent, dans le sens où il y a une autre puissance technologique absolument massive qui monte et qui ne répond pas du tout au marché, qui répond entièrement à une logique politique. Je parle bien évidemment de la Chine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que c'est possible même de travailler sur la Chine et la technologie de souveraineté chinoise?
Alors, je m'y suis intéressé et je dois répondre très, très modestement que cela ne me paraît pas possible, y compris si on parle le chinois, parce que les services de renseignement dans ce type d'environnement de pays autoritaires sont absolument, eux, pas du tout soumis à des logiques de transparence. Donc, la seule documentation que l'on peut recueillir est une documentation de militants qui ont souffert de ces services de renseignement.
Et donc, un peu fragile.
Et donc, un peu fragile, intéressante, mais fragile. Et donc, je crois qu'il faut mieux, dans ces cas-là, s'abstenir. Mais dans l'ouvrage que l'on écrit avec Peter Jackson, on traite de ce renseignement en dehors du monde occidental, mais pour des périodes plus anciennes sur lesquelles on a un peu de matériaux, notamment pour la période de la guerre froide, du début de la guerre froide, on a quelques éléments. Pour le renseignement contemporain chinois, c'est assez compliqué. Ce que l'on peut juste dire, pour faire le lien avec ce qu'on disait il y a 5-6 minutes, c'est le fait que la Chine a fait un choix technologique très important sur les technologies de l'information et de la communication, et sur un de ses outils, qui est l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, les États-Unis, les compagnies privées, les laboratoires publics de certaines grandes universités américaines s'inquiètent très fortement de la compétition en matière d'intelligence artificielle, d'IA, que semble avoir la Chine.
Ça a un impact très concret, je parle sous votre contrôle, Sébastien Laurent, parce que ça rejoint nos deux sujets, à la fois de la privatisation par le marché et la question de la Chine, c'est la biométrie. La biométrie, les Français sont très bons en biométrie, ils font des boîtes de biométrie, ils mettent des techniques de biométrie qui vont vendre selon les règles du marché, c'est bien normal, on ne saurait leur en faire grief, mais elles peuvent très bien servir les autorités chinoises, dont on sait qu'elles aiment beaucoup cette technique de la biométrie, et pas uniquement pour leur peuple.
Oui, alors la biométrie, elle est utilisée dans les halls d'aéroports si on veut circuler de façon safe, comme on dit désormais, mais elle est utilisée par le gouvernement chinois pour réprimer les musulmans ouïghours de Xinjiang dans l'ouest de la Chine. Et ce qu'on a pu voir justement dénoncé par des associations internationales comme Amnesty International ou Human Rights Watch, c'est que il semble que le Xinjiang chinois soit donc devenu un lieu d'expérimentation sur des centaines de milliers d'individus, ces musulmans de nationalité chinoise mais turcophone, pour surveiller justement leur comportement. Et il semble que, grâce à la possibilité d'avoir un grand stock de données, ils aient pu faire muter et améliorer leur technique. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'intelligence artificielle, l'important, c'est la quantité de données. C'est pas tellement la qualité de données. Il y a tout un travail qui se fait sur la qualité de la donnée, mais aussi de la quantité. Parce que finalement, l'IA s'entraîne sur des grandes masses. Et quand vous avez une population dans un cadre non démocratique sur lequel vous recueillez de l'information, vous allez pouvoir améliorer très fortement vos outils, parce que le droit, heureusement plus protecteur, je pense, par exemple, au règlement général des données, le RGPD de 2016-2018 dans l'Union européenne, interdit bien évidemment tout type de pratique de ce point de vue-là. Et résultat, le citoyen peut s'en satisfaire parce qu'il est fortement protégé à l'égard de l'utilisation de ses données à des fins économiques ou sécuritaires. Mais le citoyen qui voudrait voir sa sécurité assurée pourrait s'inquiéter du fait que, cela ne rend pas les outils d'IA plus performants.
Je reviens à Wilson. Et au début de notre discussion, Sébastien Laurent, vous disiez Wilson avait ce rêve très américain de relations internationales gouvernées par la transparence. Et on voit à quel point la mondialisation, on le voit ici, on le voit ailleurs, mais c'est peut-être particulièrement vrai dans le domaine du renseignement, elle nous met devant un véritable choix. Devant une contradiction qui nous oblige à faire un choix. C'est-à-dire, nous nous battons, à juste titre, pour réguler le contrôle que les gouvernements des pays démocratiques exercent sur leur population, et ce faisant, on s'affaiblit dans une tension, course générale, notamment vis-à-vis des pays autoritaires, je pense à la Russie, je pense à la Chine. Et donc, on se fragilise, et donc on s'affaiblit. Et donc, la démocratie, comme ensemble, hein, c'est-à-dire les hommes sont mieux protégés dans les démocraties, mais les démocraties, globalement, sont moins bien protégées face à leurs ennemis. C'est un véritable dilemme.
Vous dites excellemment la réalité des démocraties dans le système international aujourd'hui, du point de vue de l'intérêt de l'État et du point de vue de l'intérêt des individus. C'est exactement cela. Et je crois que une des vertus civiques de votre émission, c'est peut-être de faire comprendre à vos auditeurs que ce n'est pas simple d'être une démocratie dans un monde dans lequel les règles démocratiques ne s'appliquent pas. Le système international est un système de pur rapport de force, ce qui suppose qu'on peut conserver des idéaux, mais il faut bien le comprendre.
Alors, c'est ça, de pur rapport de force, mais à l'intérieur de ces rapports de force, on a créé aussi cette idée, qui est une idée indispensable au fonctionnement du système international, c'est celle de souveraineté. Et on a l'impression, ça sera ma dernière observation, Sébastien Laurent, que finalement, le renseignement est peut-être le dernier lieu dans lequel s'exerce la souveraineté. Et on pourrait formuler d'ailleurs la chose autrement, de dire le renseignement, le secret, est un mode souverain de maîtriser le réel, et c'est pour ça qu'il contient et qu'il continue de conserver la souveraineté des États.
Vous avez parfaitement raison, j'ajouterai une toute petite chose. Le secret permet de protéger en partie la souveraineté, mais cette souveraineté du renseignement, elle s'érode. Elle s'érode parce qu'elle dépend un peu du marché pour ses outils. Elle s'érode parce que l'idéologie de la transparence fait son œuvre. Et elle s'érode aussi parce que les États souverains doivent coopérer très fortement entre eux, de plus en plus, y compris en matière de renseignement. Et là, c'est une vraie question. On peut coopérer jusqu'où avec un État, qu'il soit démocratique ou pas démocratique? Qu'est-ce qui subsiste de la souveraineté dans une coopération de tous les instants? C'est une vraie question.
A-t-on vraiment des amis en matière de renseignement?
On n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts partagés.
Merci beaucoup, Sébastien Laurent. Matière à penser, Sébastien Laurent, Jean-Guilain Meige, Joséphine Lampreya, Catherine Denet, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où je céderai mon fauteuil à Frédéric Worms. Bonsoir.